Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast de Jamais. Alors, cette semaine, c'est un épisode un petit peu spécial puisque nous étions les invités de Mouteki, une émission de Radio Canu de Lyon. Donc Mouteki, qui existe depuis une vingtaine d'années maintenant, c'est une émission spécialisée dans la culture japonaise et évidemment donc dans la musique, puisque c'est une émission de radio. On entend pas mal de musique toutes les semaines, 5 ou 6 morceaux qui sont partagés. Et désormais, tous les mois, Jamais sera partenaire de Mouteki. On y interviendra pour parler de musique, évidemment, mais aussi pour tout ce qui touche, on va dire, à la culture japonaise dans son ensemble, connecté à la musique. Cette semaine, on a parlé de générique d'animé, on a parlé de Jamais et on a parlé du Jam Project. Voilà. Je vous laisse écouter cette émission, cet extrait d'émission. Je dis extrait parce que évidemment j'ai coupé les autres parties qui concernaient pas directement la musique japonaise et j'ai coupé également les musiques dont on n'a pas les droits. Voilà. J'espère que vous apprécierez. Je vous dis à très bientôt.
C'est le moment d'accueillir notre invité de la semaine. Bonjour Pierre. Alors attention.
Bonjour Damien, bonjour Léo.
Salut. Salut, on t'entend parfaitement, tu vois. C'est
Ah,
même
très
pas
bien,
besoin
ouf.
de test micro, c'est formidable.
Oui, ça c'est différent avec Skype.
Pierre Renaud, bien entendu, du site Jamais avec nous à l'antenne via Skype. Donc, il y aura un petit peu de décalage entre questions et réponses. Ça, c'est tout à fait normal. Comment vas-tu, Pierre?
Eh ben ça va bien et vous?
Eh ben fort bien.
Fort bien pour un samedi matin.
Voilà, on discutait de DJ Ozma et de Parapara et de Kishidan. Tu as voilà, tu connais aussi un petit peu tout cet univers,
Oui,
toi,
bien sûr, je
forcément.
connais. C'est pas forcément ma tasse de thé, ni le jeu, ni les musiques, mais oui, je connais bien,
Ah bah ça n'est plus non plus pour moi maintenant.
Oui, bah on est
À
tous
l'époque, oui.
grands.
Mais maintenant,
Oui, c'est ça.
moi.
Voilà.
Et alors, Pierre, comment va le site Jamais, du coup?
Eh ben, écoute, ça va. On en avait déjà parlé l'année dernière, mais ça y est maintenant, la nouvelle version est en ligne depuis le mois de janvier. Ça change pas grand-chose finalement. C'est surtout un gros relooking, un rafraîchissement parce qu'il y en avait grand besoin. Ça faisait quand même quelques années que le site était un petit peu, on va dire, en mode pas en pause, mais en tout cas au ralenti. Donc là, on a repris les choses en main et puis maintenant on monte en puissance progressivement.
La bête était endormie, si j'ose dire. C'est un peu ça.
Ouais, c'est un petit peu ça. Et puis c'est vrai que. De toute façon, on le sent très bien même au niveau de la communauté. Il n'y a plus un énorme engouement autour de la musique japonaise comme il y a quelques années, que ce soit avec le Visual Kei, etc. Maintenant, j'ai envie de dire, tout est à refaire. Il faut reprendre les bases de zéro parce que voilà, tout le monde s'est un petit peu endormi sur ses lauriers, que ce soit aussi bien au niveau des médias occidentaux que des artistes japonais. On a pris pas mal de choses pour acquis. Les Japonais se sont fait complètement doubler par la K-pop. Et puis voilà, donc tout est à refaire.
Mais il y a quand même un public pour ça.
Ouais, il y a toujours un public, mais il n'y a plus du tout cet engouement comme avant. Hein. Et puis il est très très dispersé. Les anciens ont complètement déserté pour la plupart. Les nouveaux, voilà, ils s'y intéressent comme ci, comme ça, mais sans trop, sans plus comme ça. Tu vois, enfin, il y a encore un engouement qui arrive un petit peu par les génériques d'animés comme si c'était le cas à l'époque. Mais je pense vraiment qu'il y a tout à refaire.
On va en
Tout à
reparler
refaire.
justement, on va en reparler un petit peu. Tu nous décris un peu un monde à la Ken le survivant où tout est effondré, il faut tout refaire, tout repartir de zéro. C'est un peu ça, non?
De toute façon, il y a qu'à voir. Hein. Bon, après, il y a eu d'autres raisons qui ont poussé à ça, mais il n'y a pas longtemps, Japan FM a mis la clé sous la porte. Bon, ben, je pense que ce n'est pas non plus un hasard. Hein. C'est un
No Life
signe
également.
voilà,
Un petit
c'est pas
mot,
forcément la bonne période, quoi.
on peut dire un petit mot de Japan FM. On avait rediffusé Muteki, mais il y a fort fort longtemps, c'est il y a une dizaine d'années maintenant, on le rediffusait sur Japan FM, l'ancienne mouture, celle de Togen. Donc voilà, on a appris la nouvelle. C'est une aventure. En fait, la radio est passée entre la web radio, je veux le préciser, est passée entre plusieurs mains. On passe pour des vieux maintenant, nous Muteki, hein, à rester tout le temps en FM depuis quasiment 20 ans maintenant. On va en reparler justement de tout ça, Pierre. Ça va être extrêmement intéressant dans le sens où, en plus de ça, c'est pas la dernière fois que tu vas venir à l'antenne, puisque on a un petit partenariat mensuel. On va essayer de faire une mensuelle. On aurait dû le commencer ce partenariat dès septembre, mais septembre c'était toi qui n'étais pas dispo, octobre c'était moi qui n'étais pas
C'est
dispo.
ça, j'ai eu quelques petits problèmes de santé qui ont fait qu'on a dû repousser.
Et du coup, moi, j'étais pas là, justement. Et bah, là, on commence en novembre, ça y est, voilà, c'est la première émission de novembre. Et donc, ça y est, on commence enfin ce partenariat avec Jamé. Et donc, si tu es d'accord, on se retrouvera ensuite, début décembre, encore pour une carte blanche.
Ça fait tellement d'années qu'on en parle, qu'on voulait absolument bosser ensemble, que ça se fait enfin.
Enfin, c'est clair, voilà. Et bien, justement, on va prendre une petite transition puisque tu me parlais. Alors, Jamé, il y a une particularité. Donc, maintenant, tu es sur plusieurs réseaux sociaux, bien entendu. Vous êtes sur plusieurs réseaux sociaux. J'inclus un peu tous ceux qui participent un petit peu à cette aventure-là. Et notamment sur Facebook, sur Instagram. Et tu nous annonces notamment, et pas mal de news un petit peu dans ce sens-là. C'est-à-dire que tel ou tel groupe arrive enfin sur les plateformes de téléchargement.
C'est ça.
Et le dernier en date, c'est Jam Project. Jam Project. Voilà.
Voilà. Et ça, c'est vraiment un groupe qui me tient à cœur parce que, je résume un petit peu. Le Jam Project, c'est
un groupe All-Stars,
plusieurs grandes figures des anime song qui se sont mis à bosser ensemble au début des années 2000. Donc, il y avait Hironobu Kageyama en tête de proue. Et du coup, ils ont fait un groupe et ils ont fait plusieurs génériques d'anime comme ça. Et surtout, ils ont fait les génériques d'une série de jeux vidéo, Super Robot Wars, Super Robot Tyson. Et alors là, moi, c'est ma série. Je suis totalement fan. Je veux dire, j'ai quasiment tous les jeux. Et ils ont des génériques pour ces qu'ils ont fait spécifiquement donc pour ces jeux et qui sont vraiment des pures merveilles, quoi.
Alors moi, j'en ai plusieurs de Super Robot Tyson. Alors celle que j'aurais aimé passer, et justement, je pense qu'on va avoir une petite préférence l'un et l'autre, je sais pas. Moi, j'ai en stock là comme ça de but en blanc, pas sur Spotify, hein, mais sur ma réserve à moi, Breakout de Super Robot Tyson, original génération. Est-ce que toi, tu en souhaiterais une autre éventuellement, toi? De ton côté.
Alors, moi, j'ai vraiment énormément de mal à choisir. Ça n'est pas mal, mais bon, après, j'ai réfléchi.
C'est que pas mal, c'est pas assez.
Ouais, c'est que pas mal. Mais ma préférée, c'est Gong, je pense. Vraiment,
Gong.
Parce qu'elle a plusieurs. Ouais. Elle a plusieurs étapes. Elle monte en puissance. Elle est vraiment. C'est crescendo avec celle-ci. Et pour moi, ça reste la plus emblématique du groupe. Quoi.
Allez, j'essaie de te la trouver. On va passer Breakout pour commencer. Donc n'oublie pas de remettre, comme tu connais la procédure, hein, tu remets ton micro sur mute pendant la chanson. Mais du coup, ça y est, on a calé tout ce qu'il fallait. Donc du coup, ce que je te propose, c'est de commencer par Super Robot Tyson et de poursuivre par Super Robot Tyson à nouveau. Jam Project, juste à l'instant, voilà, d'un seul coup, poum, voilà.
Vas-y, maintenant, prends ton robot et vas-y, maintenant.
C'est parti, tu as envie de conquérir le monde ou de sauver la Terre ou je ne sais pas, ou d'engager plein de petits robots à combattre pour toi et de dire
hey. C'est l'univers, mec.
Voilà.
On a des robots partout, des vaisseaux spatiaux. Voilà, la totale.
Jam Project sur Spotify désormais. Et on est toujours avec Pierre et c'était la sélection. En tout cas, la carte blanche de Pierre Renaud de Jamé. Tu es toujours avec nous.
Je suis toujours là.
Ah, parfait. Et donc, toi aussi, tu as envie de reconquérir le monde et de refaire pour la 8e fois ce jeu que tu mets 30 ans à finir, parce que c'est un tactical RPG, on le rappelle, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas, avec plein de petits robots.
C'est très, très long, oui.
Et c'est très, très long.
Et puis, il y a plein de robots.
C'est très, très long. Mais de toute façon, il y en a tellement que tu en as pour toute une vie, quoi.
Ouais, et puis t'as tous les robots des classiques de partout, de toutes les séries, c'est un crossover, donc pfff.
Et dans la toute dernière série, dans le tout dernier, le Super Robot Tyson T, qui est d'ailleurs même sorti sur Switch, on retrouve carrément Captain Harlock, Albator, avec l'Arcadia, quoi.
Parce que d'accord.
Donc, pour
les
nostalgiques, voilà, quoi.
Ouais, merci, merci Bam. Alors, j'allais dire Bam Presto, mais c'est plus eux maintenant. C'est ça a été englobé dans un truc plus. Enfin, ils se sont fait avaler.
C'est Bandai.
Voilà, Bandai, du coup, désormais. Bravo.
Enfin, chez nous d'ailleurs, ils sont à côté de chez nous. Ils sont à Lyon. Hein, nous,
oui, c'est vrai.
Bandai Namco Europe.
Exactement.
Chez nous,
Bandai Namco Europe qui est à Lyon.
C'est à Lyon. Hein.
Exactement. Ça va faire plaisir à Émilie. Bonjour.
Ouais.
ex Bandai Namco, voilà, justement.
Donc voilà, non, mais c'est de toute façon, c'est en plus ça commence un peu à marcher. Enfin, je sais pas ce qu'il en est réellement, mais moi j'ai l'impression que ça marche. Ça arrive en Europe puisque c'est maintenant traduit en anglais,
oui.
Si j'ai bien compris. Et ça prend un peu. Enfin, il y a une petite communauté déjà qui existait quand ça sortait en japonais, qui avait des ultra fans de robots, de méca, etc. Mais j'ai l'impression que maintenant que ça a été traduit en anglais, il y a vraiment un effort des Japonais de le faire exporter et de le faire diffuser dans d'autres pays, quoi.
Ah déjà, en fait, la traduction en anglais, c'est surtout pour le reste de l'Asie avant le Japon,
d'accord.
En fait. Mais
d'accord.
Avant l'Europe même. Mais oui, effectivement, maintenant que c'est en anglais, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus simple. Parce que des fois,
ah,
tu étais là dans les menus,
mais
tu ne savais pas
textes.
Trop où
non,
aller.
Il y a des textes de partout.
Avec la force de l'habitude, tu t'y retrouvais, mais des fois, tu mettais des pouvoirs au robot, tu ne savais même pas ce que ça faisait. T'étais, allez, petit bonheur à la chance.
Pimp my robot, c'est un peu ça, quoi. Tu veux combattre avec ton petit Gundam contre l'autre. En plus de ça, et alors une particularité graphique. Ce que je dis petit Gundam, ça m'y fait penser, c'est qu'en fait moi j'ai toujours l'histoire, enfin pour moi Super Robot Taisen, je suis un vieux de la vieille par rapport à Super Famicom, tout ça. Pour moi, c'est des robots en SD. Est-ce que c'est toujours le cas
c'est
aujourd'hui?
Oui, c'est toujours le cas. De mémoire, je veux pas dire de bêtises, les puristes vont me taper dessus. Alors pourtant, Dieu sait que je les ai tous quasiment, mais je crois qu'il y en a qu'un seul en fait où ils sont pas en SD, c'est le Shin Super Robot Taisen qui était sorti sur PlayStation 1 à l'époque. Et il me semble que dans celui-ci, ils sont en taille normale. Enfin, ils ont une apparence normale.
Mmh. Ils ont voulu marquer le coup. D'accord, ok.
Et du coup, ça n'avait pas marché, ils sont partis en arrière.
On revient un petit peu, on revient sur Jam Project. On n'a pas beaucoup parlé de ce groupe-là. Donc, fondé notamment par Hironobu Kageyama et Ichiro Mizuki. Alors, Ichiro Mizuki a plus ou moins pris sa retraite depuis. Hironobu Kageyama continue toujours à animer le groupe. Mais c'est un groupe, je disais ça de manière assez vite fait, All Stars. C'est-à-dire que tu vas avoir des gens qui ont chanté tel ou tel générique qui sont extrêmement connus. Et Kageyama va un peu sonner le rappel en disant: tiens, est-ce que ça te dirait de jouer avec moi? Et puis toi, et puis toi.
Est-ce ouais, que c'est ça.
C'est un petit
c'est
peu
exactement le concept. Voilà. Et en plus, il y en a beaucoup qui connaissent ce groupe sans le connaître dernièrement, parce que c'est quand même eux qui ont fait l'opening de One Punch Man, le première saison, la deuxième saison. Hein.
Les deux premières saisons, exactement. Vas-y, Pierre.
Non, je disais, oui, t'as raison, c'est ça. Les deux premières saisons, c'est eux. Et voilà, et donc on retrouve ces génériques-là maintenant sur Spotify. C'était pas le cas avant.
Exactement. Et en fait, il y a quelques années de ça, c'était pareil, mais au Japon. C'est-à-dire que le Jam Project, c'est un groupe qui a été fondé quoi en 2000, donc il y a quasiment 20 ans, qui a l'âge de Muteki. C'est fou, ça. C'est un groupe qui a l'âge de Muteki. Et donc, qui était connu surtout justement des fans des vieilles séries, parce que, oh, regardez, c'est le chanteur de telle série. Et ce qui m'avait marqué, en fait, on avait reçu plus ou moins... plusieurs personnes qui avaient fait notamment le Nico Nico Chokaigi, ou qui avaient participé ou qui avaient assisté, donc tous les rendez-vous sponsorisés, mis en place par Nico Nico Doga, le YouTube pour otak japonais en quelque sorte, c'est comme ça que je pourrais schématiser
la
chose. Et donc à l'époque, donc il y a quelques années de ça, c'était le point de rendez-vous des jeunes otak japonais. Et le Jam Project, justement, faisait figure au milieu de tous ces petits genoux qui faisaient de la nissong en amateur. Le Jam Project faisait figure, ça m'a marqué, de grands anciens en quelque sorte. Donc ils ont renouvelé leur génération comme ça, en se montrant sur les plateformes de vidéos japonaises, quoi.
Ouais, c'est ça, ouais. Et d'ailleurs, le Jam Project était déjà venu en France, c'était lors de Chibi Japan Expo, c'était en 2008.
Oui, voilà. C'est vrai, en 2008, et ils étaient revenus ensuite avec Lantis, Amuse Lantis, qui voulait faire leur promo en France il y a quelques années de ça, 2015, quelque chose comme ça.
Et pour la petite histoire, c'est moi qui m'étais chargé de leur venue, puisqu'à l'époque, je travaillais pour Japan Expo.
Ah bah tiens, voilà, on a brassé du monde Japan Expo.
De toute façon, Japan Expo à l'époque, de toute façon, c'est un peu incontournable, même aujourd'hui, c'est un peu incontournable.
Voilà.
Non, mais c'est vrai que ce groupe en plus fait un peu vraiment écho aux animés ou même aux Sentai, tu vois, Tokusatsu. Enfin, ça rappelle vraiment ce côté épique à la japonaise, de générique épique à la japonaise. Parce qu'il y a vraiment ce sentiment de monter en puissance. On le sent dans les génériques, hein, de toute façon, et dans les chansons. Et ce côté-là, encore une fois, on le retrouve pas vraiment dans d'autres groupes de musique japonaise. C'est vraiment typique, quoi. C'est vraiment monter en puissance. Ce lyrisme, il y a une sorte de lyrique, tu vois, derrière ces chansons, mais pas lyrique au sens, mais tu vois, même vocale, voix féminine très haut perché, tu vois, c'est
oui.
Plus du lyrisme, du lyrique vraiment, neketsu-esque, on peut presque dire ça, c'est-à-dire un truc vraiment japonais.
Ah, mais c'est surjoué, c'est sur-mise en scène, et c'est ça qui plaît justement.
Exactement.
Pierre, tu es d'accord avec ça?
Ah oui, complètement. Il faudrait que vous regardiez ce que vous pouvez trouver sur YouTube, des vidéos de RoboNation, par exemple, où vous voyez le public mais complètement déchaîné en train de chanter des génériques qui ont 30 ans là, mais c'est un truc de dingue quoi.
Et un truc où je veux en, bah justement là où je veux en venir, c'est notamment tu me parlais de paysages de fans justement de musique japonaise qui est un peu plus déserté qu'à la grande époque. Je trouve qu'il y a un point, un village qui résiste encore et toujours, c'est l'Anisong, et il y a un vrai public pour ça. Et ce qui est amusant, c'est de voir des petites conventions, pas forcément les grosses hein, mais les toutes petites, celles qui sont organisées par les BDE de telle ou telle école de graphisme ou d'ingénierie informatique, voilà, exactement. Et il y a toujours des karaokés ou des blind tests d'Anisong ou des choses comme ça. C'est marrant, c'est quelque chose qui s'est renouvelé en fait.
Ah oui, et moi je suis convaincu que c'est absolument là-dessus qu'il faut creuser quoi. Il faut mettre les bouchées doubles sur les anisons parce que non seulement c'est par là que passent la plupart des groupes, hein, je veux dire les grands groupes du moment, ils font tous des génériques. Hein. Mmh. Et en plus, vraiment, c'est là que les Japonais ils peuvent frapper fort. Mais je pense qu'ils ont vraiment pas encore bien compris ça parce que sinon. Dans les génériques, le nom du groupe, il apparaîtrait un petit peu mieux, il serait au moins transcrit, si ce n'est, à défaut de pouvoir le traduire des fois. Mais je pense qu'il faut vraiment taper fort sur cet aspect.
Tu penses que c'est pas encore assez respecté, c'est-à-dire qu'il y a une époque, il y avait carrément des chansons, en fait, c'était un article du Jam Project il y a fort fort longtemps, mais qui est vrai, hein, qui est une réalité qu'on a vu nous, c'est-à-dire qu'à une époque, il y avait juste des artistes en promo qui vendaient leurs chansons aux séries et il y avait pas forcément de gens qui créaient, il y avait moins de gens qui créaient des génériques sur mesure pour telle ou telle série, ou en tout cas, c'était pas forcément très considéré. Et maintenant, ça change un petit peu les mentalités à ce niveau-là, peut-être.
Oh, quand même, je pense.
Ouais, d'ailleurs.
Vas-y, vas-y, vas-y.
Non, vas-y, Léo, vas-y, vas-y.
Non, je disais, je pense qu'à l'époque, c'était surtout. C'était aussi une reconnaissance, quand même, pour certains groupes de pouvoir chanter. Sur les animés les plus connus, en tout cas, sur les animés les plus connus, c'était un moyen de reconnaître un groupe ou un chanteur ou une chanteuse. Après, pour les groupes qui voulait se faire connaître, c'est plus sur les animés un peu plus, voilà, un peu moins grands, un peu moins connus. Aujourd'hui, je pense surtout, enfin moi, ce que je constate, c'est qu'en plus avec l'effet de consommation maintenant sur Internet, avec beaucoup de streaming, etc., on peut sauter le générique. Donc il y a un mode de consommation très différent aujourd'hui. Effectivement, il faut vraiment que les Japonais réfléchissent à la manière de faire les choses. Je pense que les gens se souviennent plus de BGM maintenant aujourd'hui, de musique que de chansons. Maintenant, c'est mon avis, hein, c'est plus mon sentiment aujourd'hui, mais malheureusement le.
De création spécifique là, Damien, ouais, par rapport aux animés, et c'est super intéressant de regarder ce qu'ils ont fait avec la série Gundam The Origin. C'est Sugizo qui s'est chargé un petit peu du truc, puisque Lunacy a fait l'opening, mais pour les endings, c'est Sugizo avec des collaborations diverses. C'est à la fois des nouveaux titres, des reprises de choses qu'il a fait lui, mais chantées par une voix féminine ou d'une voix masculine.
Oui, ouais.
Ou alors même carrément des reprises des très, tout premiers génériques de Gundam remis au goût du jour, et ils sont vraiment fabuleux, ils sont somptueux.
Donc c'est un travail pour la série et non pas pour la promo de l'artiste.
Tout à fait.
Ouais. Moi je pense vraiment, tu as totalement raison, il faut que les Japonais arrivent à comprendre que malheureusement pour eux en tout cas, la vague Hallyu, donc la vague K-pop. Et pour nous, la vibe K-pop venant de Corée à balaye tout là en ce moment, c'est assez hallucinant, et donc les Japonais doivent comprendre effectivement et trouver un angle d'attaque, parce que même le Japon s'est envahi par la musique coréenne
depuis longtemps,
et puis même la musique coréenne a envahi le Japon, ce qui est quand même déjà un truc assez hallucinant en fait de base.
Rien que ça là-dessus devrait se poser des questions.
C'est ça, je suis d'accord,
et ça c'est un phénomène qui existe depuis assez longtemps. Nous d'ailleurs à Muteki, on essaie d'aller au-delà pour le coup. On avait reçu justement un groupe de rock il y a 2 semaines de ça. On avait fait découvrir notamment du post-rock coréen Jambinai, qu'on a retrouvé, que peut-être vous français avez vu sur vos écrans en Mondovision lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Pyeongchang. Oui messieurs dames, si vous les avez vus il y a 5-6 ans, ils s'étaient passés en tournée en France de manière en catimini totale, ouais. Et aujourd'hui ils jouent dans des très grandes salles, ils sont extrêmement considérés, c'est Jambinai au passage. Donc voilà, c'est amusant d'aller au-delà du Hallyu également. Mais
ah
d'ailleurs,
oui, bien sûr.
Pierre, tu as aussi toi un pendant coréen à Jamais, il me semble.
Alors c'est vrai qu'en 2007 on avait créé Comé, qui était justement donc le pendant coréen de Jamé. Ça n'a jamais vraiment décollé parce que déjà il y avait déjà une concurrence importante anglophone à ce niveau-là. Et puis finalement on est en train de se dire vraiment est-ce qu'on le continue ou pas parce que il faut quand même. On s'est remis dans le contexte de Jamé. Jamé, on s'est dit, c'était et c'est toujours. C'est un site de promotion de la musique japonaise, de la culture, pour que voilà, elle soit visible dans en dehors du Japon, dans notre pays, en Europe, etc. Et on s'est dit finalement, si on part du même principe pour Comé, j'ai envie de dire le succès il est là, donc on n'a aucune raison d'exister par rapport à ça.
Tout à fait.
Voilà, je veux dire, BTS ils remplissent le Stade de France, ils n'ont pas besoin de Comé.
Déjà, exactement.
Effectivement.
Je suis totalement d'accord.
On consomme pas aussi les musiques des deux pays de la même manière aussi, ça.
Mais ouais, puis.
Ouais, c'est possible. Ouais.
Non, et puis même, tu vois, par exemple, comparons les stratégies des deux pays, mais par exemple, la Corée, YouTube, tu as des clips de groupes coréens partout. C'est hallucinant.
Alors que
que les concerts de groupes japonais.
Et même sur TikTok, ils sont déjà sur
mais
TikTok.
Oui, mais les mecs sont à fond.
TikTok, si vous ne connaissez pas, c'est un nouveau réseau, effectivement.
Ils sont en train de se filmer, en train de dire coucou, je suis là, t'as vu mes pecs, quoi.
Mais ouais, mais c'est ça. Alors que les Japonais ne sont pas du tout dans ce trip-là. Ils sont encore dans un mode très traditionnel, enfin, pas traditionnel, très classique de la promotion. Et ils n'ont pas du tout compris. Ils n'ont pas compris la vague des réseaux sociaux.
Le monde maintenant. Qui réalisent qu'ils sont plus du tout, qu'ils peuvent plus faire la méthode qu'ils emploient sur leur île et qu'il va falloir qu'ils changent complètement de façon d'aborder le sujet.
Moi, je pense qu'ils n'ont pas compris les réseaux sociaux en fait. En tout cas, occidentales, les réseaux sociaux occidentaux, ils n'ont pas compris.
Même aussi la promo.
Je crois qu'ils n'ont pas compris Internet non plus parce qu'ils n'ont pas visité en flash.
Ils sont très protecteurs. Ils sont très protecteurs au niveau des droits. Effectivement, c'est compliqué pour certains artistes d'avoir effectivement tel ou tel accès aux chansons. Ils se font désirer dans un monde où ça devient un handicap. Mais ça, c'est pour peut-être un autre débat, messieurs dames. Puisque, eh bien, c'est tout le temps qu'on a. Il nous reste 4 petites minutes avant de clore cette antenne. Oui. Pierre, un petit dernier mot peut-être?
Oui, on n'a peut-être pas parlé de l'actu de la semaine. Alors, je vais faire assez rapidement. Mais il y a 2 jours, Shina Ringo vient de publier un duo avec Utada Hikaru. Qui sera sur son prochain album, qui sera un best-of, qui sort donc au mois de novembre. Donc, ça fait partie des 2 inédites à paraître sur cet album. Et donc c'est arrivé là le 31 octobre. Et elle est dispo depuis aujourd'hui en version digitale sur Spotify et compagnie quoi.
Allez,
ah
super.
Ouais quand même. C'est comme deux divas.
Et tu nous la mets pour la semaine prochaine.
Shina Ringo, bon t'inquiète pas, on en a en stock, il y a pas de souci à se faire. Malheureusement c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup Pierre. Léo, on se retrouve la semaine prochaine. Tu es là?
Oui.
Et Pierre, bien entendu, à retrouver donc le mois prochain. Et à retrouver, bien entendu, sur Jamé.
Jamé,
voilà, bien entendu.
Écoutez.
Écoutez, lisez, regardez Jamé, bien entendu. Exactement.